Bonjour à tous. Moi, parmi vous ce matin, et vos textes, le thème de, que je viens de lire, un texte dans Genèse, au chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vient ensuite la malédiction. Puisque tu as fait cela, tu vas galérer. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu retourneras la poussière d'où tu as été tiré. Adam et Ève avaient été placés dans un jardin parfait, abondant. Il y avait tout ce qu'il fallait pour eux. Ils avaient été créés par Dieu, donc parfait, suffisant pour les nourrir. Ils pouvaient se servir à discrétion, sauf un. Ils ne devaient pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai un contact avec un ami de mon village et il me disait, c'était quand même tordu de la part de Dieu d'avoir mis cet arbre là au milieu. Hein, il n'aurait pas été tenté. Mais je lui ai dit, mais tu aimerais avoir quelqu'un que tu n'aies pas de choix à faire, que tout soit à ta portée, que tu ne puisses pas décider. Alors il faut aller en Corée du Nord, là tu n'as pas le choix non plus. Mais là on a le choix, on peut choisir et Dieu nous place devant ce choix. Et c'est parfait. Et c'est alors que le diable se présente après cette proposition alléchante et va lui faire une proposition au verset 4 pour obtenir la célébrité et il leur dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Voilà le doute qui commence à être mis. Et les voilà qui écoutent le tentateur, bien sûr, plutôt que la parole de Dieu, surtout qu'ils constatent que le diable a dit vrai. Que les fruits de cet arbre avaient un bel aspect, agréable, tentant, oh, comme on est tenté de manger. Et alors, en prenant de ce fruit défendu, Adam et Ève ont cédé à la tentation. Ils ont cédé aux trois éléments qui caractérisent de nos jours le monde et ses convoitises. Et cela fait penser au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Quand il dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, écoutez bien, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. » Adam et Ève ont cédé à ces trois éléments. En fait, ce qu'Adam croyait obtenir en mangeant du fruit défendu, il l'a perdu. Il devra désormais faire le tri avec ce qui est bon à manger, qui est mauvais. Il devra détruire les épines. Il devra piocher les mauvaises herbes. Mais il sera surtout privé de l'immortalité et de la proximité avec Dieu. Quel gâchis! Quel gâchis pour accéder à la tentation, à ce que le diable a fait miroiter à nos premiers parents. Quel gâchis. Et oui, je ne sais pas comment serait maintenant notre terre s'il n'y avait pas tout ce gâchis. Mais en tout cas, on est obligé de travailler à la sueur de notre front, de peiner, de gagner son salaire en trimant, alors qu'on avait tout à portée de main. Mais Dieu a prévu un plan B. Il ne nous laisse pas comme cela. Et pour rétablir cette relation perdue, il envoie son fils qui s'est présenté comme l'agneau de Dieu qui va ôter la conséquence de la désobéissance d'Adam. Mais ce plan B ne se limitait pas au sacrifice de Jésus. On a l'habitude de prêcher, de dire, oui, Jésus est venu sur terre pour prendre notre place, pour payer à notre place et pour nous accorder son plein pardon, mais aussi l'assurance de la vie éternelle. Mais aussi pour nous aider dans la vie de tous les jours à triompher des tentations, ceux-là même qui ont discrédité nos ancêtres. Pour que le sacrifice de Jésus soit valable aux yeux de Dieu, il fallait que celui qui allait prendre notre place n'ait commis aucun péché. La perfection de Jésus a été démontrée après son baptême. Lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea pas, il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, que le temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à son sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dans ce texte, la perfection de Jésus est démontrée. Dieu venait par son baptême, ce récit se situe tout de suite après le baptême de Jésus, où Dieu a témoigné que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et dans ce texte, la perfection de Jésus est démontrée. Dieu a permis ce rendez-vous avec le tentateur. C'était pour lui prouver, oui, on peut dire, hein, que c'était le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert, il a permis cela. C'était pour, face au diable, lui prouver qu'il ne pouvait pas pécher. Après 40 jours de jeûne, le diable, profitant de sa faiblesse, s'est approché de lui et va lui prouver, lui proposer une alternative. Tout comme avec Adam et Ève. Si. A noter que le texte nous rapporte trois tentations. Mais le verset 2 précise que Jésus fut tenté pendant 40 jours. Nous ne savons pas de quelle tentation il s'agit, mais on peut supposer que celles qui nous sont rapportées sont comme le point final, l'assaut final du diable pour essayer de faire plier Jésus. Première tentation, il lui propose de se servir de la puissance et pour transformer cette pierre en pain, plaisir de la chair, comme Adam, c'était agréable à voir. Alors Jésus va faire ce que nous devrions tous faire. Il a recours à l'écriture. Si tu as faim, transforme ces pierres. Tu vois du pain. Mais quand Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, il fait référence au Deutéronome chapitre 3, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce verset se rapporte au murmure du peuple dans le désert, qui en avait assez de manger de la manne, alors qu'ils avaient râlé parce qu'ils avaient faim. Alors Dieu leur envoyait la manne. Mais après la viande, ça ne suffisait pas. Ils voulaient de la viande. Adam et le peuple étaient mécontents de ce que Dieu leur donnait. Dans le jardin, il y avait la profusion. Il y avait ce qu'il fallait. Le peuple avait ce qu'il fallait pour manger de la viande tous les jours. Mais toujours la même viande, c'est fatigant. C'est usant. On n'est pas un peu comme ça. Vouloir plus, meilleur, envier ce que les autres ont, ne pas être satisfait de ce que le Seigneur nous donne. C'est sûr qu'il n'a encore pas chacun la même chose, mais selon ce dont on a besoin pour lui servir. Jésus avait faim, mais il refuse de céder. Il réussit de céder au pouvoir de Satan. D'utiliser son pouvoir, oui, il avait le pouvoir, il aurait pu le faire, hein. Il aurait pu changer ses pierres rouges. Mais il ne veut surtout pas montrer qu'il suivait les ordres du diable, suivait ses conseils du tentateur, comme Adam et Ève, ce qui l'aurait discrédité pour sa mission future. Adam, lui, a succombé au plaisir de la chair, ce que l'apôtre Paul appelle les penchants de la nature déchue. Romains chapitre 8, verset 6. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts, ses plans tournent autour de sa personne, sous l'empire de la chair. Adam avait tout ce dont il avait besoin. Il n'avait pas besoin de ce fruit défendu pour vivre. Mais dans la perspective de devenir l'égal de Dieu, ça a pris le dessus. En cédant dans la proposition du diable, Adam et Ève ont entraîné l'humanité dans la mort qui n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue dans le plan initial de Dieu, cette mort, cette séparation. C'est pourquoi ça fait si mal, la souffrance de la mort. Jésus, bien qu'affamé, refuse d'utiliser son pouvoir pour ne pas dépendre des conseils du diable. Comme je l'ai dit, ça l'aurait discrédité pour sa mission aux yeux de Dieu. Lorsque dans Matthieu 6, verset 33, Jésus dira à ses disciples, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Alors il sait de quoi il parle. La deuxième tentation, la convoitise des yeux. Le diable le transporte sur une autre montagne, et en étendant son regard, il prétend que tout ceci lui appartient, tout ce que tu peux voir, aussi loin que tu peux voir, ça m'appartient. Et je suis prêt à donner, à te donner tout ça, dit à Jésus, si tu me fais allégeance. Quel cadeau. Recevoir la domination du monde sans passer par la croix. Ça vaut bien une courbette, non ? Ça vaut bien céder un petit moment. Imaginez l'échange. Le diable qui est prêt à échanger la domination, le royaume, le monde entier, l'adoration du monde entier contre l'adoration du Fils de Dieu. Ça sent le piège, là. Hein? Mais bien sûr que c'est ce que le diable voulait. Il voulait éviter que Christ aille à la croix pour nous assurer l'assurance du pardon de nos péchés. Le diable est prêt à céder son pouvoir sur le monde contre celui qu'il pourrait exercer contre le Fils de Dieu. Et Jésus va lui répondre une fois de plus en citant l'Écriture. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est vrai que le monde déchu est sous l'influence du diable. C'est vrai qu'il a les moyens de nous faire détourner du bien. D'ailleurs, n'est-il pas appelé le prince de ce monde par Jean dans son évangile, ou le Dieu de ce siècle par l'apôtre Paul? Et c'est justement pour l'en délivrer que Jésus est venu. Le délivrer de cette emprise du mal qui a commencé avec Adam dans la Genèse. Mais Jésus n'a que faire de cette proposition malhonnête du père du mensonge. Car Jésus sait que ce qu'il lui propose, il l'obtiendra. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, quand Jésus s'est présenté devant les disciples après sa résurrection, il leur a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais après avoir donné sa vie, après être mort sur la croix, alors qu'il avait vaincu le mal, vaincu la mort, tout pouvoir lui a été donné. Donc il n'avait que faire des propositions du diable, mais pas de raccourci possible. Il fallait d'abord passer par la croix. Troisième tentation, l'orgueil de la vie. Le diable transporte sur le haut du temple. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Cette fois, le diable change de tactique. Car il a été vaincu par l'Écriture et alors il va s'en servir. Il va citer une parole de l'Écriture pour dire à Jésus que lui aussi connaît l'Écriture. Prouve-moi que tu es le Fils de Dieu et qu'il va te protéger. Alors il va citer le verset, le psaume 91, verset 11. Il ordonnera à ses anges de te garder. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et oui, le diable connaît les Écritures. Ézéchiel chapitre 28 nous apprend qu'il était un ange flamboyant, mais qu'il s'est révolté contre Dieu. La citation est subtile, mais elle est sortie de son contexte, rien à voir. Le diable le met au défi de tenter Dieu. Et ça, c'est aussi très grave. Car oui, si Jésus est sauté en bas du temple, Dieu l'aurait sauvé, bien sûr, c'est obligé. Il l'aurait empêché qu'il ne se fracasse en bas. Mais il prouverait que l'Écriture s'accomplit, qu'il est bien le Messie. Il aurait démontré au monde que Dieu l'épargne de cette chute. Il aurait acquis la notoriété, peut-être aux yeux des Juifs. C'est peut-être la révélation qu'il avait besoin pour voir qu'il était vraiment le Messie. Mais encore maintenant, le peuple ne le reconnaît pas. Acquérir la notoriété et la célébrité sans passer par la croix. Et Jésus va une fois de plus citer les Écritures. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce verset fait référence dans le chapitre, dans Deutéronome chapitre 6, à la révolte de Massa, lorsque le peuple avait soif et a regretté d'avoir quitté l'Égypte et demandait des signes de sa présence. Gardons-nous de mettre Dieu au défi, qu'il nous prouve sa bonté ou qu'il tient ses promesses. La foi en lui doit nous suffire. Vouloir vérifier que Dieu tient ses promesses, c'est le tenter. Mais Jésus, par sa confiance à son Père, sort victorieux de toutes les tentatives du malin. Tout ce qu'il a essayé de faire pour le dévier de sa mission pour laquelle il est venu, il n'y arrivera pas. Christ restera l'agneau sans défaut, sans avoir péché, pour pouvoir expier les nôtres. Le verset 13 nous indique que le diable vaincu se retirera jusqu'à un moment favorable. Alors ce moment favorable, il est arrivé. Il sera donc là à son agonie à Gethsémané, où il propose à Dieu un autre chemin que la croix pour sauver l'humanité. Souvenez cette prière: Seigneur, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, tu sens que je la bois, que j'accomplisse ta volonté sans souffrir. Alors, mais que ta volonté se fasse. Tentation, l'ennemi par derrière lui insuffler quelque chose. Mais il est là. Il sera là à la crucifixion pour lui suggérer de descendre de la croix et prouver ainsi sa divinité. Souvenez ceux qui l'insultaient au fond de, qui assistaient à cela. Descends de la croix, tu es le Fils de Dieu. Prouve-le. Tout le diable qui insinue. Si tu es le Fils de Dieu, Dieu a qui réellement dit. Toutes ces paroles insinueuses de ce père des mensonges. Quand Jésus a annoncé à ses disciples la mission pour laquelle il était venu, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, il a prédit tout cela aux disciples. Alors Pierre a une réaction toute humaine. C'est pas possible. toi si bon, toi si plein de compassion, tu as ton guéri tant de malades. C'est pas possible, ça ne t'arrivera pas. Alors Jésus a cette réaction que l'on devine violente. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Sans le savoir, Pierre était le porte-parole du diable. Il était involontairement, bien sûr, mais le diable s'est servi pour mettre le doute. En étudiant ce texte, j'ai été interpellé, car il m'arrive parfois de réagir avec de voir autour de moi des hommes et des femmes consacrés à un ministère béni. Ils ont des fruits impressionnants, fidèles jusqu'au bout, mais de les voir en fin de vie, dans la souffrance, diminuer, voire gravataire. De penser comme Pierre, c'est pas juste. Pourquoi eux? Ils ont donné leur vie pour toi. Comment ici qu'ils finissent comme soi, comme cela? Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu ne comprends rien. Tes réactions viennent de, sont humaines et bien loin de mes pensées. Oui, on ne connaît pas nos destinées. Par ces trois tentations, on peut en déduire que le diable connaît bien l'inspiration du cœur humain, le désir charnel, la soif de puissance et le besoin d'être reconnu. Si Jésus avait cédé à l'une ou l'autre de ces tentations, nous n'aurions pas eu cette possibilité de nous en sortir. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle ceci. Du fait que Christ a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Christ, par sa victoire sur le malin, a prouvé qu'il était qualifié pour être notre rédempteur, c'est-à-dire agréé par Dieu pour prendre notre condamnation sur lui. Ah, si Adam avait fait la même chose que Jésus, le même réflexe, sans tenir à la parole de Dieu. Tu peux me tenter avec ton fruit si merveilleux, mais Dieu nous a dit n'en mange pas. Que de dégâts la convoitise a provoqué à notre société. Ah, si Adam et Ève s'en étaient, étaient contentés de tout ce jardin. Et maintenant, encore, on peut voir tout le mal que cette convoitise peut faire. Ce désir charnel, la soif de puissance, le besoin d'être reconnu, le pouvoir abaisser les autres. Ça, c'est le mal. C'est le diable qui influe cette tentation. Y a-t-il dans votre vie des situations où vous n'en voyez pas l'issue? Peut-être à cause de choix malheureux. Oui, on en fait. Guidé par un mauvais conseil. Un mauvais conseiller aussi, le diable. Lui-même, qui est toujours en activité. Car rassurez-vous, puisqu'il n'a pas pu atteindre le Fils de Dieu, il va se retourner vers ses enfants. Alors, si parfois vous êtes tenté, sachez de pouvoir rejeter ces tentations. Savoir quand c'est mal, la conscience vous le dira. Seul rempart, chers amis, la parole de Dieu. Recours à sa parole et nous attacher à cette promesse. Lors des camps que j'ai faits dans le temps passé, j'ai été surpris de voir comment notre jeunesse était sous l'influence de l'ennemi, attirée par la pornographie ou autre addiction, sans pouvoir s'en détacher. Et ils me demandaient, mais comment faire? Alors je leur donnais cette clé. Ayez le réflexe de la parole de Dieu. Citez n'importe quel texte de la Bible qui vous vient à l'esprit pour vous détourner de ces pensées malsaines. Et moi, c'est ce que je pratique. Ou même en brillant cantique, n'importe lequel qui vous vient à l'esprit, ainsi que vos pensées soient détournées du mal et tournées vers Dieu. Je lisais récemment une recommandation. Ne cultivons pas les mauvaises pensées, empêchons-les de devenir envahissantes comme la mauvaise herbe. Hein, si une pensée nous vient à l'idée, eh bien, n'essayons pas de la travailler. Mais rejetons-la. Ce matin, il nous a été dit dans l'introduction, dans Galates 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un disait, tout verset de la parole de Dieu que vous aurez caché dans votre cœur est une épée potentielle pour repousser l'ennemi. Car l'ennemi déteste votre foi en Dieu. Il déteste votre mariage réussi. Il déteste votre église. Comment pourriez-vous avancer sans cette arme offensive? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, nous rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors utilisez-la. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans toutes ces armes proposées, une seule est offensive, c'est l'épée de l'esprit. Tous les autres, c'est défensif, hein, se protéger, l'armure, le casque, mais l'épée de l'esprit, c'est une arme offensive, qui est l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors utilisez-la. En fait, usage, hein, c'est pas comme les, comme la chose, hein. C'est une modération. Utilisez-la sans modération. D'où l'importance de la mémoriser dès le plus jeune âge, à l'école du dimanche ou dans les colos, tout ce que l'on apprend aux jeunes leur restera. Je sais que la mode maintenant, c'est de ne plus leur faire apprendre des textes parce qu'on nous dit ils apprennent assez à l'école, on n'a encore pas qu'ils sont encore à l'école qu'ils apprennent. Et maintenant, on en revient. On en revient parce qu'on sait que c'est important. Le verset qu'on apprend étant jeune, on les ressortira un jour ou l'autre, ils reviendront à l'esprit. Et ça, c'est une précieuse promesse. Bien-aimés, soyez encouragés par l'exemple de Christ, qui par amour pour nous a triomphé de toutes les attaques de l'ennemi en citant l'Écriture. Il comprend vos faiblesses, vos doutes, car il est passé par là. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, avec une grande confiance, vous y trouverez compassion et grâce, et vous obtiendrez le secours nécessaire. Au bon moment, oui, c'est vrai que le Seigneur a des moments pour nous exaucer ou pas, mais restons disponibles à l'écoute de sa parole. Car de cela, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que la parole le dit. C'est écrit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, car il a promis de vous secourir au moment opportun. Et le 4, que le Seigneur vous aide et vous bénisse, et qu'il vous aide à marcher avec lui dans ce désir de marcher avec une attitude qui lui plaît et qu'il aime. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons par ta parole qui est la vérité. Et merci parce qu'elle nous enseigne aussi comment faire pour vaincre l'ennemi devant cette tentation, cette facilité de la vie. Oui, tu l'as utilisé, la parole est toi le Fils de Dieu, alors que cet exemple nous sert d'appui pour continuer la route, Seigneur. Peut-être des tentations qui nous viennent à l'esprit. Seigneur, apprends-nous à les vaincre au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.